Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h30 sur Transistor, voici le journal radiophonique amplifié de ce jeudi 2 mars. Ce soir encore, notre équipe traque l'actualité dans sa profusion et sa diversité et part à l'écoute des bruits du monde qu'elle vous retransmet, mixé, égalisé, monté et bien sûr amplifié. Comme d'habitude, ces bruits seront politiques évidemment et vous entendrez parler de tous ces candidats en marche, les uns vers l'Élysée, d'autres vers le tribunal, mais aussi culturels ou scientifiques dans la deuxième partie de l'émission. Vous entendrez entre autres échos des nouvelles de Belgique ou de Bron pour ceux qui aiment voyager, avant de retrouver le billet alchimique de Raph et de finir avec Pop-up et Ondes courtes. Mais pour l'instant, c'est l'heure du rappel des titres qui vous est présenté cette semaine par Mathias. Bonjour à toi Mathias.
Bonjour Rémi.
Il est enfin arrivé, Emmanuel Macron présentait aujourd'hui son programme pour l'élection présidentielle. À droite, maintenant, l'hémorragie n'en finit plus dans l'équipe de campagne du candidat Les Républicains et nous reviendrons sur les péripéties et les affaires qui touchent le camp de la droite. Autrement que de la politique, Lafarge, le groupe Lafarge admet des, je cite, « arrangements inacceptables avec des groupes armés pour sécuriser sa cimenterie en Syrie ». Bercy a d'ores et déjà ouvert une enquête. Natacha Bouchard, maire Les Républicains de la ville de Calais, interdit la distribution de repas à Calais afin de ne pas créer, je cite, un appel d'air pour les migrants. Les associations humanitaires sur place affirment cependant qu'elles continueront leurs actions. Mélanie, une jeune femme trisomique de 21 ans, présentera la météo sur France 2. Après 100 000 j'aime sur sa page Facebook qui visait à lui faire accéder au poste de présentatrice météo sur une chaîne de télévision, cela aura finalement bien lieu le 27 mars. Le Conseil d'État examine aujourd'hui le cas de la petite Marwa, fillette atteinte d'un entérovirus rare dont les médecins veulent arrêter les traitements de maintien en vie malgré l'opposition des parents. Dans l'Amérique de Trump, maintenant, aujourd'hui, le ministre américain de la Justice est-il coupable de parjure ? Accusé d'avoir rencontré l'ambassadeur russe aux États-Unis à deux reprises pendant la campagne présidentielle, contrairement à ce qu'il avait déclaré sous serment. Les élus démocrates au Congrès réclament l'ouverture d'une enquête. Toujours à l'international, élection en Irlande du Nord aujourd'hui pour la deuxième fois en 10 mois sur fond de Brexit et de tensions entre unionistes et indépendantistes irlandais. Les deux partis, le DUP unioniste et le Sinn Féin séparatiste, sont obligés de gouverner ensemble selon la constitution d'Irlande du Nord. Or, la démission de Martin McGuinness, chef historique du Sinn Féin en janvier, a entraîné automatiquement la chute de la Premier ministre Arlene Foster du DUP et les deux partis refusent catégoriquement de gouverner ensemble dans un éventuel nouveau gouvernement. Comme je le disais dans le rappel des titres, il est enfin arrivé. On l'attendait comme le Messie. Emmanuel Macron présentait aujourd'hui son programme attendu de longue date. Le candidat d'En Marche propose une grande loi de modernisation et de moralisation de la vie publique, condition du ralliement de François Bayrou à sa candidature, qui prévoit d'interdire aux parlementaires l'emploi de proches ou de membres de leur famille et d'empêcher les activités de conseil et aussi fiscaliser la rémunération des parlementaires et notamment l'IRFM, l'indépendance représentative de frais de mandat. Et cette loi prévoirait aussi la fin du régime spécial des retraites parlementaires. Emmanuel Macron promet aussi de prolonger le CICE et de baisser l'impôt sur les sociétés de 33,3% tel qu'il est aujourd'hui à 25% pour s'aligner sur la moyenne européenne. Le candidat prévoit aussi la création d'un régime universel des retraites avec la fin des régimes spéciaux. Il prévoit aussi de transformer l'ISF en, je cite, un impôt sur la fortune immobilière, ce qui exclurait de fait l'impôt, le patrimoine financier et les portefeuilles d'actions. Emmanuel Macron veut aussi exonérer 80% des foyers de la taxe d'habitation. Et côté éducation, pêle-mêle, revenir sur les réformes des rythmes scolaires et du collège engagées sous le quinquennat de François Hollande. Autonomisation des écoles pour le recrutement, prime de 3000 euros par an pour les enseignants en zone d'éducation prioritaire. Et dans ces mêmes zones, division par deux des effectifs par classe en CP et en CE1 pour atteindre le 12 élèves par professeur. Emmanuel Macron veut aussi créer 4 à 5 000 postes d'enseignants et pérenniser les études dirigées partout en mobilisant les enseignants, les retraités et les étudiants. Pour ce qui est de la sécurité, un des grands chantiers du candidat d'En Marche, Emmanuel Macron veut la création de 2 nouvelles écoles de police et aussi la création de 10 000 postes de policiers et de gendarmes, ainsi que la mise en place d'une police de sécurité quotidienne et la recréation d'un service de renseignement territorial. Il veut aussi la création de 5000 postes de policiers aux frontières au niveau de l'Union européenne. Pour ce qui est de l'environnement, Emmanuel Macron veut un plan d'investissement de 15 milliards d'euros dans la transition écologique et la réduction à 50% de la part du nucléaire dans la production d'énergie. Et aussi le remplacement des véhicules anciens avec une prime de 1000 euros pour l'achat d'un véhicule moins polluant. Il envisage de même de rénover 1 million de logements mal isolés et d'ici 5 ans, atteindre le 50% de bio dans les cantines. D'après un dernier sondage en date, celui de l'IFOP des 24 et 28 mars, Emmanuel Macron réduit l'écart avec la candidate du Front National en atteignant les 24% d'intention de vote contre 25,5% pour l'extrême droite. Tout le monde a cru qu'il se retirerait et qu'il céderait sa place à Alain Juppé. C'était hier matin. Un communiqué de l'équipe de campagne du candidat Les Républicains annonçait que celui-ci ne se rendrait pas au Salon de l'agriculture qui a lieu en ce moment. Pourtant, grand événement du côté de la droite depuis Jacques Chirac. Le candidat Les Républicains a annoncé qu'il poursuivrait tout de même sa campagne malgré sa mise en examen effective le 15 mars dans l'affaire des emplois fictifs de sa femme et de ses enfants pendant ses mandats de député de la Sarthe, alors qu'il avait lui-même annoncé auparavant qu'il retirerait sa candidature si une telle décision de justice arrivait. Après cette annonce, c'est le camp des Républicains qui ne sait plus où donner de la tête. Et c'est Bruno Le Maire, ancien candidat à la primaire de la droite et du centre, qui a le premier démissionné de ses fonctions de représentant pour les affaires européennes et internationales dans un communiqué où il affirme croire en la parole donnée. Cette démission a inauguré l'hémorragie. L'UDI a annoncé qu'elle suspendait son soutien. Lors de la Rodière et Franck Riester, deux soutiens de Bruno Le Maire ont affirmé comprendre et soutenir cette décision. Le député maire de Reims, Arnaud Robinet, s'est mis en retrait de la campagne et Georges Fenech, député sarkozyste du Rhône, appelle les élus à adresser leur parrainage à Alain Juppé et non au candidat Les Républicains. Le député Pierre Lelouch demande aussi le retrait du candidat car il estime qu'un point de non-retour a été atteint. La journée a vu l'hémorragie s'amplifier. Le site de Libération.fr a mis en place un compteur des, je cite, lâcheurs qui monte aujourd'hui à 47 personnes. Et je cite pêle-mêle Florence Berthoux, Fabienne Keller, Benoît Apparu, Gilles Boyer, Pierre-Yves Bournazel et Catherine Vautrin et aussi Christine Boutin. Ce candidat, selon les derniers sondages, arriverait toujours en troisième position avec 20% des voix derrière Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite. Les soutiens du député de Paris souhaitent quant à eux lancer une manifestation de soutien ce dimanche, d'abord présentée comme une manifestation contre les juges et l'alali judiciaire dont ferait l'objet leur candidat, avant de se raviser et de proposer une manifestation de soutien à leur candidat chéri. Et c'est tout pour le journal.
Eh bien, merci beaucoup Mathias pour ces ravissantes nouvelles. Alors, si j'ai bien compris, le tiercé gagnant en ce moment, c'est la droite, avec un petit extrême au milieu, c'est ça?
C'est ça.
Ah bah, c'est toujours rassurant. Eh bien, on sans plus tarder, il est presque 20h40 sur Transistor et on va passer à la revue de presse de Marie.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
La revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Alors on ne peut pas ne pas commencer avec le discours de François Fillon prononcé hier, Marie.
Oui, et qui a été largement commenté, Rémi. Le non-retrait du candidat faisait la une ce matin de manière plus ou moins corrosive. En couverture de Libé, on trouvait le forcené de la Sarthe. Ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Mais quand on ouvre le quotidien, on tombe en fait sur un traitement un peu tabloïde de l'affaire, avec une reconstitution plus ou moins fiable de la journée d'hier. On a aussi l'édito de l'inénarrable Laurent Geoffrin, particulièrement confus aujourd'hui. À force d'accumuler les comparaisons, on ne comprend plus vraiment ce qu'il veut dire. Sous sa plume, François Fillon devient à la fois un noyé, le général de Gaulle, un droupi qui fait de la résistance, un Jean Moulin des prétoires autopromus, un suicidé et un justiciable comme les autres. Confus, je vous disais, si vous y comprenez quelque chose, chers auditeurs et chères auditrices, écrivez-nous un commentaire sur la page de l'émission, moi je suis perdu.
À part cet édito, donc, Libération s'efforce quand même de démonter le discours du candidat Les Républicains.
Certes, certes, on pourra examiner dans les colonnes la défense en cinq mensonges fillonesques. Le papier est un peu tape à l'œil avec sa rhétorique, sa rhétorique
c'est bien français, ça.
Intox, désintox, très à la mode en ce moment. Surtout, je l'ai trouvé très jargonnant, alors je vous recommande plutôt la lecture de La Croix. Oui, oui, vous avez bien entendu. Le quotidien catholique met l'accent sur la dangereuse croisade contre le droit et les juges. Avec cette une, Fillon accuse la justice. À l'intérieur du quotidien, on trouvera donc une réponse point par point aux attaques de Fillon, plus efficace et accessible que celle proposée par Libé, il me semble. Entre autres, la rédaction rappelle 2-3 points utiles. Oui, François, la justice ultra rapide est une marque de fabrique du parquet national financier. Non, François, la date du 15 mars n'est pas spécialement injuste. Les juges ne pouvaient pas te convoquer plus tôt. Et puis, s'ils te convoquent plus tard, ça interférera encore davantage avec l'agenda électoral. Et puis, la trêve judiciaire en période de campagne, eh bien, ça n'a jamais rien eu d'obligatoire.
Et d'ailleurs, il y en a qui ne sont pas du tout d'accord avec cette idée.
Oui, et je vous laisse deviner bien sûr d'où va venir le contrepoint du Figaro, bien sûr.
Ton grand ami.
Mon grand ami. Alors, le numéro de ce matin est particulièrement consternant de complaisance. On essaye de restaurer l'image du Fillon volontaire et décidé entre cette une, l'appel au peuple, et le développement entre les pages du journal. François Fillon tient bon face au juge. Accroche-toi, Fifi. On en rajoute une couche avec le gratin des juristes et essayistes de droite dans les pages débat et analyse. Bref, tout le monde est au garde à vous pour justifier le discours d'hier. Le meilleur, c'est quand même cet édito du très réac Alexis Brézet. Vous savez, ce mec qui vient de Valeurs Actuelles. « Élections confisquées », c'est le titre de l'édito. Donc, François Fillon a, je cite, « contre-attaqué crânement hier ». Et il a eu raison de le faire. Pour tous ces Français de la droite et du centre, je cite encore, amplement informés des faits et qui ont décidé de lui maintenir sa confiance. Et d'ailleurs, la trêve judiciaire, c'est une sage coutume. Et en France, ce sont les élections qui font le droit. Et je vais vous dire, moi, monsieur Cerda, on ne le dit pas assez, mais le juge ne sont pas au-dessus de la démocratie. Fin de citation.
Oh bah c'est bien vrai ça, du grand Figaro, et pourtant tout le monde n'est pas aussi courant que ce cher Alexis Brézet.
Non, aussi confiant qu'Alexis Brézet, parce que, est-ce qu'Alexis Brézet est courant, j'espère pas, des mecs dans ce genre-là.
Il a la courante peut-être.
Je ne sais plus lire, mais en même temps si mes chroniqueurs m'imprimaient les scripts.
Si tu imprimais les scripts que tes chroniqueurs t'envoient. Bref, les journalistes du Monde étaient un peu plus inspirés ce matin. À nouveau percuté par le train judiciaire, François Fillon reste fidèle à sa ligne. Et de développer un encart intéressant titré « L'impossible rencontre avec les Français », on y ironise pas mal sur la bunkérisation du candidat et le casse-tête pour son équipe de campagne. Comment éviter les incidents et les militants gauchistes armés de casseroles? Comment faire un parcours sans accident au salon de l'agriculture? Je cite « Comment lui faire croiser un maximum d'animaux placides et un minimum de Français en colère ?» Et pour les voyages, Fillon ne peut plus prendre le train à cause des comités d'accueil dans les gares. On peut lui faire prendre la voiture jusqu'à Tourcoing, mais jusqu'à Nîmes. Et quand les seuls journalistes qu'on accepte sont ceux du Figaro et de la presse régionale, qu'est-ce qu'on fait? Pour les journalistes du Monde, la campagne est tout simplement devenue impossible.
Et on finit peut-être cette revue de presse avec un tour des autres titres.
Ouais,
Marie.
On va essayer de ne pas parler que de Fillon. Alors c'est parti. Pour une fois, l'Obs ne fait pas sa une sur Macron, mais sur l'argent caché des députés. Utile, mais un peu à la bourre, c'est pas comme si on en parlait depuis un mois. À l'Express, on a recyclé une vieille couverture. Vous prenez une couve de l'Express sur les flancs francs-maçons, vous remplacez franc-maçon par Brigitte Macron, et ça donne Brigitte Macron, femme d'influence. Comment elle soutient son mari depuis le début? Son rôle secret dans la campagne? Et pour finir, une info que Mathias nous spoilait tout à l'heure dans Valeurs Actuelles. Sachez que le directeur de campagne de Fillon appelle dimanche 5 mars à une marche au Trocadéro pour, je cite, protester contre le coup d'état des juges qui confisquent l'élection présidentielle en orchestrant une traque anti-Fillon. Rien que ça, des centaines de milliers de personnes seraient attendues. Ou plutôt, il n'y en a que rien n'arrête et surtout pas le ridicule.
Merci beaucoup Marie. En effet, on nage dans le ridicule et puis on s'enfonce petit à petit en ce moment.
Ah oui, si seulement on pouvait couler, se noyer et, et ne plus jamais remonter, ça nous arrangerait.
Et malheureusement, nous allons devoir aller jusqu'à cette élection et nous serons là toutes les deux semaines pour vous en parler car c'est notre devoir, chers auditeurs.
Vivement la quille.
Ouais. Et en parlant de devoirs, eh bien, Robin a fait ses devoirs d'économie comme toutes les deux semaines. Alors, du coup, que vas-tu nous présenter cette semaine, Romain ?
Je commence par une question. Savais-tu, Rémi, que si on voulait réduire les émissions de CO2 en jouant sur le transport du commerce international, il faudrait faire plus que tripler les droits de douane pour obtenir une réduction de seulement 3,5% des émissions ?
Alors non, mais c'est emmerdant.
Alors, c'est un chiffre qui ne vous fait peut-être pas plaisir, mais s'il vous plaît, ne me détestez pas tout de suite. Ce chiffre, je le tire d'une note du Conseil d'analyse économique du mois de janvier, une note qui cherche à montrer que le protectionnisme est une mauvaise solution pour la protection de l'environnement. Alors, petit rappel, le Conseil d'analyse économique, CAI si on préfère, est un organisme placé auprès du Premier ministre, indépendant, et qui réalise des analyses économiques publiées chaque mois sous la forme de notes rendues publiques sur Internet.
Qu'on appelle les comptes rendus du groupe de travail diplôme de l'ENS.
Entre autres, effectivement. En tout cas, je vous les conseille parce qu'elles sont souvent bien faites, avec rigueur, par des grands noms de l'économie, et qu'au-delà d'une lecture statistique, elles proposent des vraies analyses portées aussi sur la théorie économique. Enfin bref, cette note dont je vous parle date de janvier donc, elle s'intitule « Commerce et climat pour une réconciliation ».
Ah mais on est toujours dans le même sujet là, c'est un discours d'Emmanuel Macron que tu nous présentes.
Presque oui. Bon, si on regarde un peu plus près le contenu de cette note, elle part d'un constat avec lequel je pense vous serez d'accord en tant que grand fan des AMAP que vous êtes, pardon.
Ah oui, tout à fait.
Donc ce constat, c'est la distance croissante entre les lieux de production et les lieux de consommation augmente la pollution. Et du coup, le commerce international, qui fait qu'on produit dans certains pays et qu'on consomme dans d'autres pays, augmente la pollution aussi. L'analyse économique distingue ainsi des émissions liées à la production de biens et services sur un territoire national, ce qu'on appelle l'inventaire national en termes de comptabilité, et les émissions qui sont dues aux biens et services que nous consommons, même s'ils n'ont pas été produits sur le territoire national, et on appelle ça l'empreinte carbone. En France, par exemple, l'empreinte carbone de la consommation est supérieure de 50% à l'inventaire national, c'est-à-dire aux émissions réalisées sur le territoire national. En Chine, c'est l'inverse.
Il semble donc que le commerce international augmente l'empreinte carbone et donc que moins de commerce international serait bon pour la planète. Et du coup, pourquoi les auteurs ne vont pas dans ce sens, Robin ?
Eh bien, allons doucement. Le commerce international pollue, certes. Mais il faut se demander pourquoi et surtout comment. Si on veut être rigoureux, comme un économiste, on distinguera effet direct et effet indirect. L'effet direct, c'est le transport qui joue indéniablement, en défaveur du climat. L'effet indirect est plus complexe parce qu'il est composé. Ce serait en gros différents mécanismes qui jouent et qui font qu'on augmente la pollution quand il y a du libre-échange. On peut voir trois effets indirects, les effets dits d'échelle, c'est-à-dire que le commerce international va accroître globalement l'activité économique et donc augmenter la pollution. Ensuite, on a aussi des effets de composition qui s'expliquent par le fait que ce commerce va faire des spécialisations entre les différents pays et du coup, les pays qui spécialiseront dans les services comme la France pollueront moins, mais à l'inverse, ceux qui se spécialiseront dans l'industrie comme la Chine ou l'Inde pollueront plus. À l'échelle globale, c'est difficile de savoir qui va l'emporter. Le dernier effet est les effets de technologie. Il faut savoir que le commerce international facilite l'échange de technologies, et notamment celles qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc pour ces effets indirects, on a les effets d'échelle et les effets technologiques qui jouent en sens inverse, et donc c'est difficile de savoir qui l'emporte. Ce dont on est sûr, c'est que le transport, l'effet direct, c'est mal. Ça représente en moyenne 33% des émissions de CO2 liées au commerce international, avec évidemment de grandes différences entre les pays.
Et du coup, le transport, c'est mal et il vaut mieux du commerce de proximité, on en est toujours là.
Effectivement. Et c'est là que les auteurs commencent à prendre un chemin particulier. C'est là aussi que la discussion va commencer à poindre, parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec eux. Les auteurs sont assez libéraux et pensent qu'une entrave au commerce international est une mauvaise idée. Ça vient d'abord du constat que j'ai rappelé avant. Le problème, c'est les effets directs, le transport. Ce n'est pas le commerce international en soi. Si on choisit donc de se concentrer sur les transports, il y a des arbitrages à réaliser. On peut commencer par remarquer le fait que les émissions de carbone des transports dépendent en grande partie de la qualité des transports, c'est-à-dire des moteurs, des carburants, et finalement de ce qu'on appelle l'efficacité carbone, c'est-à-dire de la quantité de marchandises transportées rapportées aux émissions. À ce titre, par exemple, la meuble de l'ENS est relativement efficace puisqu'elle livre une quantité assez importante à un seul endroit en limitant les transports.
Ah.
Contrairement à d'autres AMAP qui livrent à la maison et finalement ne sont pas si limitantes sur les transports. Et si on va dans ce sens, et c'est ce que disent les auteurs, c'est qu'on peut remarquer que les grands cargos maritimes, par exemple, sont relativement efficaces puisqu'ils transportent énormément de marchandises, en polluant beaucoup certes, mais si on fait le ratio, bah ça va. Et ce que les auteurs montrent en fait, c'est que l'inefficacité carbone, la plus haute, vient en fait souvent des derniers kilomètres parcourus par les marchandises.
Enfin, les derniers kilomètres, on peut quand même pas trop s'en passer, non ?
Oui, effectivement. Mais je pense que le propos des auteurs, ce n'est pas tant nier l'efficacité des opérations type commerce de proximité, c'est plutôt dire que pour lutter contre la pollution, il ne vaut mieux pas lutter contre le commerce international, et notamment sur le commerce international de grande distance, parce que c'est très coûteux, ça biaise la concurrence, ça limite les échanges, etc. etc. Ça, c'est pas vraiment rentable. Cette note va plutôt dans le sens d'un travail pour améliorer la chaîne logistique, sans nécessairement la réduire en trafic. Il propose par exemple une taxe sur les émissions, mais dont le profit de cette taxe serait reversé aux compagnies visées au prorata de leur trafic. Donc en fait, ça peut vous paraître un petit peu absurde, mais il faut le voir à l'envers. Imaginez une compagnie aérienne qui fait du trafic, et du coup qui paye une taxe parce qu'elle émet du CO2, mais elle reçoit aussi de l'argent parce qu'elle fait du trafic. Du coup, en fait, ce qu'elle va vouloir faire, c'est continuer à faire du trafic pour avoir de l'argent, mais essayer que ce trafic fasse le moins d'émissions possible. Donc garder le commerce international sans les émissions de CO2. Donc voilà, on n'est pas vraiment sûr que ça marche, mais c'est peut-être une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Je pense qu'on est baisé.
Moi, je suis un petit peu partial dans cette histoire, je dois bien le reconnaître. J'ai tendance à défendre un petit peu le modèle que j'organise.
Effectivement. Je savais que je risquais de toucher une corde sensible chez toi.
Mais ça va, je pense que tu l'as flatté suffisamment pour qu'il t'en tienne par rigueur.
J'ai pris mes précautions. Bref, je vais conclure. Quoi qu'il en soit, j'invite vous autres auditeurs à feuilleter cette note, quoi que vous en pensez. Elle est bien faite et elle est éclairante. D'autant que les auteurs s'interrogent sur des choses que je n'ai pas eu le temps d'évoquer et proposent d'autres dispositifs intéressants. Ça fait un peu plus d'une dizaine de pages et ce sera mis en ligne sur le site de Transistor.
Merci beaucoup Robin pour cet édito économique et nous enchaînons avec les sciences. On est pile dans les temps, c'est fantastique. Nous enchaînons avec les sciences et une nouvelle voix sur les ondes de Transistor et donc par voie de conséquence dans le journal radiophonique amplifié. Ce soir nous accueillons Gaël et bonsoir Gaël, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Bonsoir Rémi. Eh bien, ce soir, je vais m'attarder sur une découverte assez récente et dont vous avez sûrement déjà entendu parler la semaine dernière, puisqu'il s'agit de la découverte de cette exoplanète autour d'une étoile très proche de la nôtre. Air-conditioned bunker
where the Norwegians have stored Heracles. Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinué.
En janvier 2016, les observations faites sur une étoile peu brillante dans la constellation du Verseau avaient suscité pas mal d'attention. Les chercheurs d'alors avaient conclu qu'au moins une exoplanète orbitait autour de cette étoile, sans conclure quant au nombre total d'exoplanètes dans ce système stellaire. Après plusieurs mois d'observation et en utilisant des télescopes spatiaux et au sol, ces astronomes assidus ont enfin séparé les différents corps stellaires orbitant autour de leur étoile. Et tenez-vous bien, ce n'est pas une ni deux, mais bien sept exoplanètes qui gravitent autour de la nouvelle star de la banlieue solaire.
Et du coup, comment ça se fait qu'on n'ait pas réussi à les détecter avant ?
Eh bien, c'est pas aussi simple. Leur étoile est élégamment nommée TRAPPIST-1, est ce qu'on appelle une naine blanche, c'est-à-dire une étoile très petite et très froide. À peine plus grande que Jupiter, et tout juste 2300 degrés Kelvin, soit environ 2000 degrés Celsius. C'est peu pour une étoile, d'autant plus que sa température va influencer l'intensité de la lumière émise. Observer TRAPPIST-1, c'est plus dur que d'être ébloui par les phares de voiture et voir malgré tout le reflet des diodes du tableau de bord sur le visage de son conducteur. C'est pourtant autour de ces étoiles banales que les astronomes s'accordent aujourd'hui à dire que les chances de trouver des exoplanètes habitables sont les plus grandes. En effet, elles sont bien plus nombreuses et communes que leur sœur géante rouge, en plus d'avoir une espérance de vie beaucoup plus grande et ne mourir tranquillement sans stériliser la galaxie sur plusieurs années-lumière de diamètre à leur mort. Mais les observer demande évidemment beaucoup plus de temps et d'attention.
Et trouver des exoplanètes près d'étoiles aussi petites, j'imagine que ça doit être incroyablement compliqué.
C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fallu presque un an pour les distinguer. Contrairement à ce qu'on a pu entendre ici et là, la NASA n'a pas fait seule cette découverte, mais avec l'aide de l'Observatoire austral-européen, plus connu sous le petit nom d'ESO. Ces recherches ont été menées par une équipe de Liège qui télécommandait depuis la Belgique les télescopes TRAPPIST Nord dans l'Atlas marocain et TRAPPIST Sud au Chili, regroupés sous le doux acronyme de SPECULOS. TRAPPIST 1, avec ses 7 nains de planètes, TRAPPIST A, B, C, D, F, et G et H, se situe à 12 parsecs, c'est-à-dire 3,7 millions de milliards de kilomètres de notre système solaire. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, elle va la masquer en partie, comme lors d'une petite éclipse solaire, ce qui diminuera d'environ 1% la quantité de lumière qu'on en recevra. C'est ce qu'on appelle le transit d'une planète. Selon la durée du transit et la diminution de la lumière, les astronomes peuvent déterminer la taille et la durée d'une orbite de chaque planète, et le moins pour qu'on puisse dire, c'est que c'est un système très compact. TRAPPIST H, la plus éloignée des 7 sœurs, ne l'est que d'une distance de 6 centièmes de celle séparant la Terre du Soleil.
Ça fait quand même très très proche, ça. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas une chance qu'on puisse y observer la vie ?
Heureusement, oui. Comme TRAPPIST 1 est assez froide, ces planètes sont dans une zone qui pourrait abriter de l'eau sous forme liquide. En fait, pour détailler un peu ce cortège planétaire, les chercheurs parlent dans la publication de 6 planètes rocheuses de dimensions semblables à la Terre. En utilisant des simulations météorologiques, ils ont conclu que B, C et D étaient trop proches pour accueillir de l'eau liquide et H trop éloigné. Reste encore E, F et G. Mais même si de l'eau peut couler à la surface, cela ne signifie pas forcément que la vie s'y est développée. Pour le savoir, le plus simple est de regarder comment est modifiée la lumière qui passe dans leur atmosphère. On sait depuis longtemps que la composition chimique d'un milieu va changer la lumière qui la traverse, et en particulier, on sait détecter l'oxygène, qui est un bon marqueur biologique. Les instruments actuels sont encore incapables d'une telle prouesse, et pour en savoir plus, il faudra attendre le lancement de James Webb, le prochain télescope spatial infrarouge de la NASA et des agences spatiales européennes et canadiennes, en octobre 2008. Ajoutez encore 6 mois pour relier les appareils, et nous pourrons peut-être enfin avoir une réponse à l'éternelle question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?»
Merci beaucoup Gaël, comme quoi les biologistes ne sont pas les seuls à pouvoir étudier la durée du transit. Merci de nous l'avoir appris ce soir. Alors ça vous fait rien ça, la possibilité d'une vie dans l'univers
Non, si, c'est beau. Implanter des toilettes ailleurs que sur Terre.
Eh bien, évidemment, il n'y a qu'à ton esprit que ce genre de réflexion peut venir. On pourrait aussi y implanter le poulet dont tu es fan au-delà de toute mesure. Et nous allons tout de suite te laisser t'exprimer peut-être sur ce sujet et pourquoi pas sur d'autres, puisqu'après tout, c'est un journal de la culture et pas de l'agriculture. Il est presque 21h sur Transistor, le journal de la culture avec Raph. Alors en premier lieu, Raph, tu vas nous parler d'un très beau festival de théâtre qui se tient à partir du 7 mars et ce jusqu'au 18 mars dans différents lieux de Lyon. Il s'agit du festival En Acte. Le festival est co-organisé par le Théâtre des Clochards Célestes et le Théâtre de l'Élysée qui se partagent les représentations.
Et oui, c'est une initiative qui existe depuis 2014 et qui se décline depuis sous différentes formules. Alors il s'agit de mettre en avant les nouvelles écritures en donnant l'opportunité à de jeunes auteurs d'expérimenter le plateau. Alors le festival propose ainsi un défi de réalisation à des auteurs, des comédiens et des metteurs en scène. Le principe du festival repose sur la nécessité de créer dans une certaine contrainte qui est en même temps un cadre d'immédiateté et de partage. Dans un premier temps, une commande est faite à de jeunes auteurs, cette année une dizaine. Ils doivent écrire un texte sans thématique imposée d'une durée de moins d'une heure avec un maximum de 5 acteurs en se faisant l'écho de l'actualité. Puis vient le temps de la mise en scène qui doit se faire en 10 jours de manière épurée et exigeante. La création du texte se fait simplement, sans son et sans lumière, et un scénographe et un costumier participent également au travail. Selon la présentation du festival, on se rapprocherait alors d'une forme de théâtre très tôt.
Et vous pourrez donc consulter le programme complet des créations sur le site internet du festival, sobrement intitulé enacte.fr. Cependant, Raph, tu vas nous proposer quelques pistes dans la programmation.
Alors, je suis loin de connaître chacun des auteurs et des metteurs en scène, mais beaucoup semblent, en effet, issus de l'école de théâtre de l'ENSAT, être implantés ou travailler sur Lyon. Alors, en effet, on retrouve, par exemple, Adrien Cornaglia, qu'on a connu l'année dernière, en 2015, puisqu'il était lauréat des Journées des auteurs de Lyon, et qui travaille pour ce festival avec Louise Vigneault de la compagnie La Résolue, qui était récemment à l'affiche avec Fedeau au Célestin. On retrouve également Julie Rossello-Rochet, dont nous avions évoqué la parution de son livre « Croissant des collèges » au cours du JRA 16, et qui travaille ici avec Julie Guichard pour la compagnie Le Grand Nulle Part, qu'elles ont créée ensemble il y a peu.
Nous vous laissons donc, chers auditeurs, découvrir la programmation et soutenir ce festival assez original qui, soyons-en sûrs, dans le format qu'il propose, nous promet de très belles découvertes. Alors à présent, Raph, tu vas nous parler de l'inévitable fête du livre de Bron.
Et oui, il se passe des choses à Bron. Le festival se tient dans le week-end du 10 au 12 mars à l'Hippodrome de Paris. Et pour sa 31e édition dans différents espaces. Alors certains événements se déroulent à d'autres endroits de Bron, il est important de le noter. Alors le thème du festival cette année est « Et maintenant, on fait quoi ?» Alors là encore, la paresse pourrait vous inviter, je vous inviterai à vous rendre directement sur le site internet du festival pour un peu saisir la substance de cette programmation. Mais quand même, je vais vous donner ici un bref aperçu avec quelques-uns des moments qui quand même nous paraîtraient les plus forts. Alors en premier lieu, le festival est un grand moment de littérature qui nous permet vraiment de découvrir des auteurs contemporains dans différents horizons. La littérature à travers la poésie, le roman, le théâtre, des sciences humaines et même un espace dédié à la littérature de jeunesse, ce qui est assez rare dans les festivals de littérature contemporaine. On peut également assister à des performances, des lectures, des spectacles de théâtre ou de musique et même des ateliers de réflexion. Et donc il y a également en permanence une grande librairie composée de stands qui sont tenus par les librairies lyonnaises partenaires qui proposent les ouvrages des invités qui sont à peu près, en comptant les modérateurs, près d'une centaine. Et il y a chaque année une tombola d'organisés où vous pouvez remporter tous les livres des invités, ce qui est une bibliothèque conséquente. Rien que pour ça, il faut y aller. Et donc, pour y avoir assisté l'année dernière, il faut noter que c'est un beau moment de rencontre et de mobilisation où l'on sent une belle ferveur. Alors, il y a différents moments d'échange qui sont organisés dans les différents espaces. Il y a des dialogues d'auteurs qui confrontent des auteurs à une thématique commune qui traverserait leurs œuvres, des tables rondes autour des thèmes plutôt politiques et de grands entretiens qui évoquent le parcours de certains auteurs. Certaines rencontres sont même retransmises en direct sur France Culture.
Ah, nos petits frères de France Culture. Alors, dans les grandes lignes, quelles sont les têtes d'affiche?
Alors, on peut retrouver entre autres Patrick Chamoiseau, Éric Chevillard, Valère Novarina, dont nous allons parler dans le Bialchimique qui suivra, Jean-Pierre Filiu, Tanguy Viel et le musicien Bertrand Belin, pour ne citer que les têtes d'affiche. Donc réservez votre week-end vraiment pour cet intense moment de littérature.
Et vous pourrez retrouver quelques reportages réalisés par nos équipes à la fête du livre de Bron il y a 2 ans sur notre site transistor.fr. Alors pour terminer, tu vas évoquer un autre festival de littérature éminemment important à Lyon et en France, les Quais du Polar.
Et oui, et l'édition 2017 se tiendra du 31 mars au 2 avril dans de nombreux lieux de notre belle capitale. Oui, nous sommes la capitale. Et donc même si vous n'êtes pas des lecteurs de Polar, le festival accueille entre autres célébrités, dont je n'ai évidemment pas lu un seul livre, l'immense Cao Xialong, dont par contre j'ai dévoré les livres au lycée à travers les fameuses enquêtes de l'inspecteur Shen Cao. Je ne sais pas si les gens ont déjà lu ça. Personne. Et un de ses romans qui m'avait alors vraiment le plus marqué, La danseuse de Mao, un magnifique roman policier, vraiment très 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 beau. Donc voilà, le festival, juste pour dire quand même qu'il y a quand même, c'est quand même de la très bonne littérature. Hein. Le festival est entièrement gratuit et propose vraiment différentes rencontres, c'est important de le noter. Alors, le thème principal de cette année se déclinera autour du thème suivant, l'Europe d'Est en Ouest. Donc le festival aurait ainsi l'ambition de faire découvrir des territoires inexplorés du polar à travers notamment des auteurs des pays de l'Est, tels que Bogdan Teodorescu, pour la Roumanie par exemple. Voilà, je ne le connais pas, mais si vous le connaissez, c'est très bien. Et attention, il y a quelque chose d'assez extraordinaire aussi, les quais du polar se revendiquent presque comme des rencontres citoyennes. Et cette année, il y a des personnalités politiques qui seront présentes pour débattre, et je vous le donne en mille, nous aurons la chance de voir Eva Joly, eh oui, et Michel Néret, hein, Michel Néret aussi, qui est un ancien grand commissaire. Et donc il y a également des moments de cinéma, en partenariat avec les cinémas lyonnais, avec des rétrospectives de films, des avant-premières, des projections de séries policières. Et on fait confiance à D'Étoiles plein les yeux pour nous en parler. J'espère qu'il y aura des émissions.
Oui, l'an dernier, la journée de la radio m'avait fait rater. Il était une fois en Amérique, en copie neuve. Je m'en souviens encore.
Et donc, à noter également le partenariat avec Arte, qui diffusera un cycle noir de films policiers au cours du mois de mars, avec en premier temps Compartiment Tueur de Costa Gravas en version restaurée pour la première diffusion. Et décidément, Transistor vous fait même le programme télé. Donc vous irez voir par vous-même, il y a définitivement beaucoup de choses à voir. De la chaud aussi. Hein.
Et voilà, merci beaucoup pour ton journal de la culture, Raph. Encore plein de belles choses à faire à Lyon, que l'on aime le théâtre ou la lecture. Et en parlant de théâtre et de lecture, eh bien, tu vas mêler les deux selon ta savante alchimie. Et tu retournes nous emmener chez Valère Novarina cette semaine, il semblerait. Oui, donc Valère Novarina, que tu avais évoqué lors de notre numéro de reprise à la rentrée le 9 novembre dernier pour son spectacle Le Vivier des Noms qui se jouait alors au TNP.
Et oui, tout à fait. Et donc aujourd'hui, nous allons nous vivifier à nouveau à la source d'une nouvelle publication de l'auteur.
Il s'agit donc de Voix négative qui vient de paraître aux éditions POL et qui contient en quelque sorte trois textes de réflexion de l'auteur, suivis d'Entrée perpétuelle, une version pour la scène du Vivier des Noms.
Et oui, donc comme tu viens de le dire, le livre se compose ainsi de quatre parties distinctes qui sont les lieux des crimes de l'auteur où il expose le souffle de son théâtre. Trois courts textes de réflexion suivis d'une version mesurée, selon l'auteur, et épurée du Vivier des Noms, déjà paru en juin 2015 au moment de la création du spectacle chez POL et qui était alors, selon les dires de l'auteur, une forêt vierge. Et donc je parle bien des crimes de l'auteur. Je m'appuie pour cela sur un des personnages de la pièce qui n'apparaît pas dans la version du Vivier des Noms, mais bien dans cette nouvelle version Entrée perpétuelle. Ce personnage s'appelle l'Homme de 1 et dont Rémi va nous lire la réplique avec toute la joie dont il peut faire montre.
Il y a en moi un endroit où pratiquer librement mon crime. Je l'appelle l'endroit de ma joie.
Il faut recommencer. On recommence. Allez, un peu plus de joie.
Je te préviens, c'est la deuxième et la dernière. Il y a en moi un endroit où pratiquer librement mon crime. Je l'appelle l'endroit de ma joie.
Très bien.
J'ai fait ce que j'ai pu.
Et donc, pour parler en premier lieu de la réorganisation du texte, on a là véritablement un phénomène très intéressant. On a deux états du texte à proprement parler. Donc par rapport à la première version, cette version retire des longs passages, notamment au personnage de l'historienne, et de manière générale, même si je n'ai pas eu le temps de comparer scrupuleusement les deux versions dans leurs différentes évolutions, on peut affirmer que Valère Novarina livre ici un texte qui est plus facile à jouer par des comédiens. Le texte est véritablement divisé en 52 scènes distinctes, avec une composition égale en termes de contenu et beaucoup de parties qui se recoupent, mais ce n'est définitivement pas le même texte.
Quel intérêt pourtant de le lire si on connaît la première version, ou même de préférer cette version à celle du Vivier des Noms si on veut découvrir.
Alors, outre les trois essais dont je vais parler sous peu, Entrée perpétuelle, donc qui est le nom donné, je le rappelle, pour cette version du Vivier des Noms, est véritablement un texte qui se recentre autour de l'échange des personnages et qui vivifierait presque en un sens la première version en lui donnant un rythme plus vif et une logorée beaucoup moins soutenue. Encore une fois, le texte raconte un bout de notre monde, en tout cas quelque chose qui, comme le dit le personnage nommé 1, dont Rémi nous a lu une magnifique réplique, nous aurions nommé monde en le traversant en tant que lecteur. Le texte n'est pas un processus de pensée, on a là quelque chose de l'ordre du jet, de l'insouciance, et même une géologie charnelle du langage, telle que l'écrit l'auteur dans l'essai « L'acte de la parole ». Ce qui compte le plus, ce ne sont pas les effets que les mots pourraient produire sur notre pensée, mais comment les mots tentent de ressaisir le vertige de la pensée même. Car nous pensons sans y penser. Et oui. De manière mécanique et parfois sans lumière, car penser est devenu dans nos sociétés un acte de communication banal et une nécessité pour apparaître en toutes circonstances hégémonique dans notre suffisance. Penser est une générosité, comme l'écrivait Victor Hugo dans son manifeste William Shakespeare. Et au fond, les trois essais critiques qui précèdent la pièce nous le confirment. Valère Novarina questionne les sources de notre pensée, de notre langage, de nos corps, de nos croyances, de nos sociétés. Une source qui, au fond, ne nous appartient pas. En effet, la source viendrait de plus en plus loin, de plus loin. Quand on voit sortir une source à la lisière d'un bois ou dans la béance d'une grotte, nous ne savons jamais son origine, nous apercevons seulement son flux ou parfois son délicat jaillissement qui s'écoule paisiblement. Et c'est le bruit de cet écoulement qui nous fascine et parfois nous prenons l'eau dans la paume de nos mains pour la porter à nos lèvres quand nous avons soif.
Alors de quoi parlent les trois essais critiques si on essaye de ne pas aller trop loin dans l'interprétation, Raph ?
Alors, ces trois textes étaient déjà parus sur d'autres formes. Hein. Écrit dans l'air raconte une expérience de travail avec des acteurs à Haïti. L'acte de la parole est une réflexion sur les obédiences latines de notre langue et son profond lien avec la philologie qui exprimerait au mieux notre rapport à la nature. Enfin, Niement, N-I-E-M-E-N-T, est une sorte d'essai en fragments qui nous montre vraiment les références religieuses de l'auteur, dévoilant même dans ce livre intitulé « Voix négative » ce qui, selon lui, constituerait le mieux ses initiales. En effet, Valère Novarina égale « Voix négative ». Et donc ce que l'auteur appelle ainsi le « niement », c'est un peu dans le sillage de René Char qui écrivait par exemple dans les feuilles d'hypnose « L'acquiescement éclaire le visage, le refus donne sa beauté », c'est tout ce qui en nous finalement est renversé, car c'est en renversant les choses que nous traversons et que nous pouvons espérer arriver à notre terme. On ne meurt jamais dans le théâtre de Valère Novarina, on ne fait que parer les suites catastrophiques de notre existence.
Et à noter pour ceux qui voudraient entendre Valère Novarina parler de son œuvre, s'il arrive à en parler mieux que Raph, vous pourrez le retrouver à la fête du livre de Bron, donc le samedi 11 mars, en grand entretien à l'Hippodrome de Paris, salle des parieurs à 18h.
Et dépêchez-vous d'y aller avant pour éviter de faire la queue avec les mamies.
Merci de nous faire partager ton expérience un petit peu traumatique, il semblerait. Et sans plus tarder, il est 21h12 sur Transistor et nous enchaînons avec Pop-Up, la caution geekerie du journal radiophonique amplifié avec Alice.
Bonsoir tout le monde et bonsoir chers auditeurs. Ce soir, on va parler super-héros et plus particulièrement de Logan qui nous raconte la toute dernière aventure du célèbre Wolverine. Enfin, ses tablettes surtout sont célèbres à en croire le nombre de fois où elles apparaissent dans les films de la franchise X-Men. Vous le savez peut-être, ce film est sorti hier, le mercredi 1er mars, et je m'arrête tout de suite pour faire un petit disclaimer. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir le film, mais je tiens quand même à souligner que je me suis spoilée pour faire cet amplifié, donc qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour ces chroniques ? Pourquoi est-ce que je vais vous parler de ça ? Eh bien, pour aborder un sujet qui fait toujours plus de bruit en ce moment, à savoir la question des films de super-héros en général et la lassitude qu'ils provoquent en particulier. Si au box-office, ces productions sont toujours rentables, il suffit de voir le calendrier Marvel pour en être assuré, elles sont tellement présentes qu'elles finissent par fatiguer un petit peu les spectateurs. Les Avengers, par exemple. On se retrouve avec une dizaine de films sortis depuis 2008, soit une moyenne d'un peu plus d'un film par an, qu'on cumule avec les autres séries comme Les Gardiens de la Galaxie, les Spider-Man, les films de la licence DC Comics, les X-Men, et je ne parlerai même pas des séries télévisées DC ou Marvel. Chacun ses préférences, mais ça fait beaucoup même quand on aime ça comme moi. Et ça fait encore plus quand on remarque que les scénarios ne se renouvellent pas beaucoup, avec toujours les mêmes ressorts et les mêmes péripéties. Autre exemple. L'année dernière, on s'est retrouvé avec deux films, Captain America Civil War et Batman vs Superman. L'idée de base est la même, et ça donne vraiment l'impression d'un genre qui n'arrivera jamais à sortir de ses codes établis. Et ça nous pose bien entendu la question de ces univers gigantesques élaborés à travers ces séries de films, Et d'une certaine façon, ça questionne aussi la pertinence de continuer à faire des films. Le film, en général, suppose une forme de clôture, alors qu'à la fin de chacun de ces films Marvel ou DC, on sait pertinemment que le film est destiné à avoir une suite. Donc finalement, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire une série ? Et c'est un peu agaçant de n'avoir jamais cette sensation de fermeture, parce que finalement, un abonnement de Netflix, ça revient moins cher que des places de ciné. Mais bon, malgré ça, on a quand même certains films qui ont tiré leur épingle du jeu. Et alors, comment on fait ça ? Bah, selon les Gardiens de la Galaxie et Deadpool, avoir une bande-son géniale, un tantinet rétro, et avoir beaucoup d'humour et d'autodérision, c'est le bon plan. Mais là encore, la structure reste classique dans ces films et les codes ou le sujet de fond ne sont jamais vraiment ébranlés. Et c'est là qu'on en arrive à Logan. Parce que bien sûr, bon voilà, je le rappelle une nouvelle fois, on ne sait jamais, ce que je vais dire, je le tiens particulièrement de critiques qui sont sorties sur le film. Et bien sûr, le film n'est pas parfait. Il est un peu long, apparemment, et il n'échappe pas du tout à certains codes du genre, avec des méchants vraiment très très méchants. Et je tiens d'ailleurs à souligner qu'il y en a un qui s'appelle Donald et qui a une jolie mèche blonde. On se demande pourquoi. Mais quoi qu'il en soit, Logan a quand même été salué comme le film qui redore le blason des films de super-héros. Alors, en effet, il a apparemment une bande musicale de qualité. Et si vous n'avez pas eu les larmes aux yeux, comme moi, en entendant Hurt de Johnny Cash dans sa bande-annonce, je ne peux plus rien pour vous. Mais concernant l'humour, par contre, on repassera. Parce que c'est précisément ce qui intrigue avec ce film. Il nous plonge dans le thème du vieillissement et de la décrépitude, des thèmes qui sont assez peu abordés dans les films de super-héros finalement, où des papis de quasiment 100 ans sont toujours capables de terrasser des milliers d'extraterrestres. Et oui, Steve Rogers, on te regarde. Logan, et on note l'insistance sur le prénom dans le titre du film, nous montre un Wolverine bien plus mal en point, avec des cicatrices et son pouvoir de régénération défaillant. L'esthétique est elle aussi bien plus organique, ce qui donne un effet réel accentué, et la violence est bien plus dérangeante. Et ça, on le voit dès la bande-annonce. Il faut aussi dire que Hugh Jackman et le réalisateur James Mangold se sont battus pour que le film soit rated R, c'est-à-dire catégorisé pour adultes aux États-Unis. C'est aussi un film qui nous parle de filiation et de transmission entre Logan et la jeune mutante qu'il recueille. Mais d'une certaine façon, on a aussi cette histoire de transition entre le professeur Xavier qui va léguer son rôle de guide à Wolverine. Et finalement, c'est un petit peu drôle parce que en parlant comme ça, on a l'impression que ce sont des thématiques... Enfin, que c'est un film qui pourrait se...
C'est un queue, quoi.
Voilà, c'est ça. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Enfin, je ne veux choquer personne ici, et mon regard va vers toi, Rémi Cerda. Ça ressemble un petit peu à du cinéma d'auteur. Mais bon, ne crie pas tout de suite, ça reste deux choses différentes. Alors, ça nous montre tout simplement que...
N'est pas loin.
Que ces films-là peuvent aborder des questions un peu plus complexes et peuvent avoir une profondeur qu'on ne soupçonne pas. Et qu'ils sont surtout capables de dépasser les clichés. Et c'est sûrement comme ça, d'ailleurs, qu'ils parviendront à régénérer le genre. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Et du coup, je vous encourage à aller voir Logan de James Mangold avec Hugh Jackman.
Merci beaucoup, Alice, pour ces conseils cinéma. Au milieu de ce journal radiophonique amplifié, promis, c'est pas moi qui lui ai demandé de parler de ciné, je vous l'assure. Et nous terminons donc cet amplifié avec la dernière chronique de l'émission. C'est parti pour Onde Courte.
Onde Courte.
Et ce soir, je voulais revenir sur une actualité extrêmement anecdotique, mais qui touche à l'essence même du média radio et concerne ce sujet fascinant qu'est le silence. Écoutez plutôt.
Alors, on va faire le test. Ici, avec vous, hein, José Mour, on va entendre le silence blanc, le silence artificiel, le silence des micros fermés. On va voir ce qui se passe quand, sur France Culture et sur peut-être n'importe quelle radio, quand il y a plus de 10 secondes de silence, ce qu'il se passe, parce qu'il y a forcément un moyen, une espèce de roue de secours qui s'enclenche, parce qu'on ne peut pas tolérer le silence à l'antenne plus d'un certain nombre de secondes. Micro fermé donc.
Vous écoutez France Culture. Tout de suite, le retour de vos programmes sur France Culture.
Alors voilà, dans son émission Les chemins de la philosophie, ce mardi matin sur France Culture, Adèle Vendrette s'intéressait à la place du silence dans le cinéma, place qui ne lui a été acquise qu'avec l'avènement du cinéma parlant. Le cinéma muet n'avait pas les moyens de créer des silences, et à l'inverse, le silence, matériau éloquent s'il en est, ne saurait être qualifié de muet. Et c'est de cette indispensable éloquence que je voulais vous parler aujourd'hui, Mathias.
Vaste programme, Rémi. Et du coup, que nous apprend la petite expérience menée par Adèle Vendrette ?
Alors avant tout, l'expérience n'est pas nouvelle. En 2013, dans la libre antenne de la psy Caroline Dublanche sur Europe 1, la même chose s'était passée après l'intervention passionnée d'une jeune femme décrivant ses souffrances. L'animatrice avait marqué quelques secondes d'arrêt, suffisamment pour que se déclenche la playlist de secours et que sa réponse soit emportée avec son silence. Donc, dans les deux cas, le constat est le même. Le silence est synonyme d'une panne, d'un dysfonctionnement. Il est anormal et n'existe que comme conséquence d'un problème indépendant de notre volonté. Le silence est porteur d'une menace. Bref, le silence fait peur. À tel point que sur Europe 1, justement, les techniciens doivent faire un rapport à leur hiérarchie pour tout silence de plus de 2 secondes.
Et voilà, au rapport, Monsieur Cerda.
Avec plaisir, car je préviens tout de suite ma hiérarchie, que je revendique un amour immodéré pour le vertige unique procuré par le silence, qui est un peu à la radio ce que le bas-relief est à la sculpture. Il faut s'en approcher pour le percevoir, sa beauté réside dans ses détails, dans sa forme toujours un peu déformée et étrange. Mais surtout, il permet d'en voir la matière, il nous laisse voir couler les atomes dont la radio est faite. La seconde d'attente lorsqu'un journaliste appelle son correspondant de l'autre côté du monde, c'est déjà tout un voyage, c'est un éclair qui fait apparaître les ondes qui courent autour du globe. Le silence de l'invité qui cherche dans sa mémoire la réponse à la question qu'on lui pose ou le mot qui lui échappe met en jeu toute sa présence à l'antenne. C'est la lutte émouvante de la parole contre l'oubli et il s'apparente, écrivait Jacques Esnous en 2007, à la larme qu'on voit couler sur les écrans. Et que dire des silences terribles de l'adaptation de La guerre des mondes d'Orson Welles qui nous font entendre mieux que tous les mots les ravages faits par la célèbre attaque d'extraterrestres.
Oui, bon, bah, c'est bien joli, Rémi, mais force est de constater que les radios de la bande FM ne sont peut-être pas aussi sensibles à toute la poésie que tu évoques.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et cette insensibilité explique Marie Bertin dans un excellent article publié sur Saint-Aune, site dont je ne peux que vous recommander la lecture, accompagne une tendance frénétique à la rapidité dans le paysage radiophonique. Les formats sont sans cesse plus courts, plus saccadés. Des journaux de 20 minutes au sujet atteignant les 4 minutes qu'on pouvait connaître dans les années 70, on en est venu à l'ère des flash infos, des capsules de 20 secondes. Une façon de zapper à la place de l'auditeur, de le maintenir en haleine, de se caler sur le format des spots publicitaires aussi, avec un montage à outrance des interviews dont on supprime toutes les respirations. Et c'est une façon aussi de renoncer à faire de la radio un média qui s'écoute et de se contenter d'un média qu'on entend.
Mais pourtant, il y a toujours un public pour des radios plus exigeantes, comme Transistor.
Oui, bien sûr, il nous reste déjà le bastion Transistor et puis le bastion France Culture, d'abord avec, entre autres, cette émission emblématique qu'est l'atelier de création radiophonique qui publiait il y a 2 ans et demi un montage de 55 minutes, qui a d'ailleurs reçu le Grand Prix Phonorgia Nova en 2015, et que la notice décrite ainsi « Chihuahua, un peu à l'est du triangle des Bermudes, 400 000 m² de désert, tous les sons que vous entendrez ont été enregistrés dans cette zone, puis retravaillés, sculptés, mixés à Paris. Cette zone de silence, c'est aussi une façon de faire parler les ondes autrement. Nous vous recommandons une écoute au casque et dans un lieu silencieux. » « Bon, voilà, il y a aussi des moments où ça parle, mais avouez que ça a plus de gueule que Jean-Michel Apathy. Et enfin, je ne résiste pas au plaisir de vous faire écouter cet enregistrement d'une œuvre d'art installée en rase campagne anglaise, Ringing Singing Tree, qui fait résonner et déforme le bruit du vent pour l'enrouler sur lui-même en un grand cœur de fantôme au milieu des champs. Bon, j'imagine que ça rend mieux en vrai avec les vrais moutons autour, mais bon. Voilà, avant de nous quitter, je profite de ce 20e numéro déjà du journal radiophonique Amplifié pour faire un petit coucou à Clément, ex-président de Transistor et fondateur de l'émission. Son bébé a 20 numéros et ça mérite bien un petit bonjour par la voix des ondes.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Clément.
Bonjour Clément.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue sur les ondes de Transistor pour le premier numéro d'une nouvelle émission, le journal radiophonique Amplifié. Toutes les deux semaines, nous vous proposerons, notre compagnie, de décortiquer l'actualité. Nous vous proposons un véritable journal avec au programme le traitement des grands thèmes par les médias, une enquête de l'économie et deux billets, l'un politique et l'autre international.